Bonjour chers auditeurs, bienvenue à Radio Courtoisie, vous êtes dans l'émission Culture et Politique, Richard Haddad au micro avec Pierre-Henri, comme tous les lundis à 17h.
Bonsoir Richard, ravi de vous retrouver, c'est toujours un plaisir d'être sur les ondes de Radio Courtoisie, en ce lundi 17h.
Aujourd'hui au programme, un invité et un livre. Notre invité c'est Marc Erard, bonjour monsieur et bien, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Bonjour messieurs, merci à vous pour cette aimable invitation.
Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'intitule La Lotharingie et son enjeu géopolitique pour hier, aujourd'hui et demain. C'est un petit livre qui reprend un peu d'histoire et qui parle d'avenir aussi. Donc, comment l'introduire ? Ce n'est pas tout à fait de l'histoire, c'est une sorte d'essai.
On peut dire ça comme ça.
Corrigez-moi si je me trompe.
Historico-politique. Géopolitique. Alors,
Vous partez du Moyen-Âge jusqu'à ce que vous appelez, la déchéance de l'Europe.
Décadence.
Et puis vous projetez un peu dans l'avenir. Mais alors Pierre-Henri, vous aviez une idée de commencer par une question du...
Oui, parce qu'il faut commencer par le commencement. Quand on évoque le nom de Lotharingie, ceux qui ont les souvenirs de l'école primaire et du collège se souviennent d'abord de la figure de Charlemagne et surtout de ce qui va se passer avec ses petits-enfants. On a le fils qui est heureusement le seul héritier de l'Empire, carolingien, lui premier.
Et
puis trois enfants, deux d'un premier lit et puis un troisième qui va arriver et dont la mère Judith de Bavière va faire en sorte qu'il ait aussi sa part d'héritage. Et ça, c'est ce que vous blâmez un petit peu au début du livre sur les coutumes d'héritage des Francs. Et puis il va y avoir une alliance entre deux des frères sur les trois, celui qui va être Charles II, Charles le Chauve, et Louis le Germanique, qui vont s'allier contre le troisième, qui s'appelle Lothaire. C'est là que ça commence. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, volontiers. Alors, comme je reprendrai déjà Jacques Bainville, le grand historien français, qui beaucoup d'autres historiens, bien sûr, aussi l'historien belge Henri Pirenne, leur thèse est que le traité de Verdun est un des traités les plus importants de l'histoire européenne et donc occidentale, puisque la civilisation occidentale naît en Europe occidentale. Et donc, en 843 a lieu ce fameux traité, que l'on appelle le traité de Verdun. Et Lothaire, le fils aîné donc de Louis le Pieux que vous avez mentionné juste à l'instant, va hériter non seulement de la Lotharingie, mais aussi de la couronne impériale. Donc on peut dire que c'était le primus inter pares de la fratrie. Et donc c'est à sa mort, enfin il va déjà abdiquer pour se retirer à l'abbaye de Prüm. Et là, très rapidement la mort va subvenir. Et c'est ensuite ses trois fils qui vont hériter de la Lotharingie. Avec un héritier qui va avoir l'Italie, pour simplifier, un autre la partie septentrionale et l'autre la partie méridionale. Et donc c'est à partir de là qu'on peut dire que la Lotharingie en tant que telle a cessé d'exister, même si institutionnellement, certains seigneurs, que ce soit de Francie occidentale ou Francie orientale, ont continué à s'appeler roi de Lotharingie. C'est pour ça que dans une page du livre, j'explique que on peut parler de Lotharingie du 9 au 10e siècle.
Oui, alors est-ce que vous pouvez rappeler aux auditeurs, qui n'ont pas tous la radio en couleur, si je puis me permettre, la forme bizarre, en fait, de la Lotharingie au moment du partage de Verdun, qui fait que beaucoup d'historiens ultérieurement ont dit que, de toute façon, cette espèce de découpage donnait un territoire tellement hétérogène, voire hétéroclite, qu'il était ingouvernable et qu'il allait finir tôt ou tard par se laisser manger comme en sandwich par ses deux voisins, l'ancienne Gaule, la Francie occidentale, et puis ce qui deviendra l'Allemagne, la Francie orientale.
Alors, pardon, avant, est-ce que ce serait bien pour les auditeurs qui parfois ont oublié leur géographie de situer un peu la Lotharingie par rapport à la géographie actuelle de l'Europe?
Bien sûr, pour faire très simple, c'est le Benelux, le parti central de l'Europe, donc l'Europe rhénane avec la France de l'Est et l'Allemagne occidentale, avec la Suisse qui fait le lien entre l'Italie et la Provence, enfin la Savoie, etc. Et donc c'est cette longitudinale, c'est cette bande de terre. Alors bien sûr, territoire hétéroclite, mais je dirais que la France de l'Ancien Régime était également un territoire hétéroclite. Et donc, entre un Breton qui habitait dans le Morbihan et un habitant de l'Artois ou du sud de la France, dans le Languedoc, par exemple, la différence culturelle n'était pas moins grande qu'entre un Bruxellois, comme je l'explique, ou un Genevois. Et donc, étant suisse, venant de ce pays, nous arrivons très bien à cohabiter avec des personnes, disons, on est de la même culture, de la même civilisation occidentale, mais qui ne parlons pas la même langue, qui avons une vision du monde, de l'histoire quelque peu différente.
Donc, en fait, d'après vous, ce découpage de la Lotharingie n'était pas déjà en germe sa condamnation, en fait. Non. Ça aurait pu fonctionner.
Disons que son gros problème, c'était ses deux voisins.
Oui.
Voilà.
Et leur appétit.
Voilà.
Et en fait, le fait que la Lotharingie ait fini par être, mangée, si je puis dire, par ses deux voisins, est-ce que c'est dû à la faiblesse de Lothaire et de ses successeurs, ou est-ce qu'il y avait quand même des faiblesses structurelles, territoriales?
Donc, comme vous l'avez déjà évoqué, le droit germanique était donc, si l'on peut dire, le premier problème. Comme Jacques Bainville, il l'a aussi beaucoup expliqué dans son histoire de ville de France, les successions germaniques avec les territoires qui sont multipliés, qui sont divisés, redivisés. Et donc, c'était déjà une faiblesse interne au monde franc, germanique, dirons-nous. Et ensuite, les deux voisins, à l'est, la Francie orientale, donc l'ancêtre de l'Allemagne, comme on peut dire, et la Francie occidentale, la France actuelle. Voilà.
Et que va devenir, en fait, parce qu'on va aller plus loin dans votre réflexion, que devient la Lotharingie après, justement, le Xe siècle? C'est-à-dire, est-ce qu'elle disparaît complètement de l'histoire? Est-ce qu'elle va rester sous forme d'idées? Est-ce qu'elle va rester sous forme de territoire concret? Qu'est-ce que ça va devenir au fil du temps?
Alors, l'on peut dire que, au suite des traités, en gros, on peut dire que c'est le Saint-Empire qui a ensuite repris la juridiction de ces terres.
Titre impérial, d'ailleurs.
Et le titre impérial avec la dynastie de Hontaut Ier, donc le Xe siècle, qui est éminemment important tant pour l'Allemagne que pour la France, avec l'avènement de Hugues Capet.
En fait, c'est le partage, si je puis me permettre l'ainsi, c'est un peu le partage des titres entre la France et la Germanie. C'est-à-dire que la Germanie va garder le titre impérial et le nom d'empire jusqu'au 19e, voire jusqu'au 20e siècle, si on compte le Troisième Reich. Et la France, elle, va être un royaume.
Oui, à ceci près que je dirais que l'héritier, si on veut dire, je dirais que l'empereur d'Autriche était un plus légitime successeur du Saint-Empire que les Hohenzollern prussiens.
Oui, évidemment.
Oui, tout à fait, bien sûr. Et donc, la question était...
Alors, la question était, que devient la Lotharingie après le Xe siècle?
Oui, tout à fait. Et donc, juridictionnellement, comme je vous le dis, elle passe sous le Saint-Empire romain. Et ensuite, c'est un enjeu éternel géopolitique qui va opposer pendant des siècles le royaume de France à l'empereur. Jusqu'au XXe siècle.
Jusqu'à la Grande Guerre.
Et même la deuxième, absolument. Tout à fait. Et donc, je ne sais pas si on va aborder maintenant le grand sujet de l'État bourguignon, mais...
Allez-y.
Volontiers. Donc on arrive au fait où la France, l'Allemagne s'affrontent. Bon, il y a eu la période de la guerre de Cent Ans où ce que les Français ont eu plutôt une rivalité avec les Anglais, quoique Philippe Auguste bat une coalition...
Avec des Flamands, des Allemands,
des Anglais.
C'est Bouvines, en
citant notamment le grand historien Jean-Christian Petit-Fils. Et arrive en quelque sorte, à la fin du Moyen-Âge, une espèce de résurgence lotharingienne, par l'intermédiaire des Valois de Bourgogne. Et donc le premier Valois est donc Philippe le Hardi, qui va recevoir le duché de la Bourgogne de par son père Jean le II, qui a été le roi qui a été capturé par les Anglais. Et donc, là, c'est l'embryon d'un État. Et ensuite, par des mariages, par des alliances, la Bourgogne méridionale va peu à peu comment dire, le duc de Bourgogne sera aussi un seigneur des Pays-Bas. Et donc, quand je parle des Pays-Bas, c'est des plats pays bourguignons qui, au fil du temps, incluront la Belgique, une grande partie de la Hollande et le Luxembourg. Et tout le problème de cet état bourguignon, c'était le lien. Comment faire le lien entre la Bourgogne, disons Dijon, et Bruxelles, Malines, les villes riches. Et c'est là que Charles le Téméraire entre en jeu, le dernier duc de la dynastie, qui va hériter du territoire de son père Philippe le Bon, le grand-duc de Bourgogne, qui est vraiment, comment dire, celui qui va établir l'état bourguignon, lui donner une structure. Et Charles le Téméraire était un personnage impulsif, fougueux, comme... voilà. Et il n'était peut-être pas un assez fin politique. Il va se lancer dans une guerre contre les Suisses, et soutenus par le roi de France Louis XI, le très intelligent, le très fin, le très machiavélique roi de France. Et donc, cela sonnera la fin de cet état bourguignon à Nancy, avec la mort du duc Charles. Louis XI se précipitera sur la Bourgogne. Et au plat pays, c'est sa fille Marie de Bourgogne qui mariera un Habsbourg, Maximilien, et qui va donner qui donnera notamment la puissance habsbourgeoise montante à cette époque.
Si j'étais taquin, je dirais que quand même pendant presque 1000 ans, la Lotharingie n'en finit pas de disparaître.
Elle n'en finit pas de disparaître, mais son existence, comment dire. Elle n'en finit pas de disparaître, oui.
Chaque fois qu'elle réapparaît, visiblement, elle n'a qu'une existence plus ou moins éphémère, en fait.
Parce qu'elle se trouve des adversaires.
Mmh.
Et peut-être que c'est la fatalité aussi. Peut-être que Charles le Téméraire, voilà, était un politique. Peut-être qu'avec un successeur comme Philippe le Bon, qui était un monarque, un souverain, oui, on peut dire un monarque, parce que ils étaient rois sans avoir le titre, en fait, les ducs de Bourgogne. Et donc, oui, de ce fait, avec les ennemis, le roi de France, ça s'est terminé encore une fois de plus.
Et après, donc là, on en arrive, on est au XVIe siècle environ, fin XVe, début XVIe siècle.
C'est ça.
Après, qu'est-ce que ça va devenir jusqu'à... Alors, vous avez parlé d'enjeux de rivalité, beaucoup entre la France et l'Allemagne, toute cette région-là.
C'est ça, exactement. Un historien fait toute une liste des batailles qui s'est déroulée sur le territoire lotharingien. Si vous voulez, je peux vous en... on peut citer toutes les guerres de Louis XIV.
Le Palatinat, on pense.
Le Palatinat, même avec Henri IV, avant de mourir, assassiné par Ravaillac, il avait des ambitions pour le duché de Clèves. Et même... La Lotharingie, on peut inclure l'Italie avec les guerres d'Italie, les rois de France qui sont allés jusque là-bas parce que par ce rêve impérial qui n'en... L'Italie, c'était l'Italie, c'était l'Empire romain, c'était... Et donc, cette Lotharingie, pensons à la guerre de 30 ans, c'est toute l'Allemagne qui est à feu et à sang, mais l'Alsace, la Lorraine a beaucoup souffert, voilà.
Vous parlez après, alors comme il nous reste que 10 minutes, on va un peu avancer, et vous parlez d'une sorte de... Alors je reprends le mot d'échéance parce que vous l'avez utilisé dans votre livre, décadence ou d'échéance. Vous dites que ça a commencé à la Renaissance. Et après, vous retracez un peu ça jusqu'à le début du XXe siècle, avec les deux grandes guerres qui vont finir par achever un peu la puissance... De ce territoire. Alors moi, je n'ai pas très bien compris comment, parce que vous parlez du déclin, vous parlez de la colonisation, de la décolonisation qui fait partie de ce déclin, mais alors, en quoi la Lotharingie telle qu'on la connaît, c'est-à-dire à partir du 19e siècle, c'est plusieurs pays qui ne sont pas tout à fait les mêmes sur ce plan-là, sur le plan géopolitique et culturel. Comment vous expliquez que, parce qu'ils n'ont pas évolué de la même manière, comment vous expliquez de manière globale que cette Lotharingie-là, par exemple, ne serait-ce que sur la colonisation, par exemple, le versant allemand de ce territoire, n'a pas colonisé beaucoup de pays, n'a pas eu une puissance impériale à travers le monde, c'est plutôt l'Angleterre et la France. Alors la Belgique un tout petit peu. Donc comment vous expliquez cette décadence d'une manière globale sur tout ce territoire?
Cette décadence due à la colonisation?
Non, à la dé... non, je veux dire l'évolution, c'est-à-dire que vous dites qu'après avoir été puis... Ah pardon, il y a le... Bon, on... Non, c'est pas tout de suite la pause, parce que normalement il y a une pause. Non, je veux dire que c'est... Vous expliquez que après avoir été puissant et dominant, après avoir dominé le monde...
L'Occident,
mais moi je parle de la Lotharingie
de
manière particulière. La décadence est arrivée, les deux guerres l'ont accélérée, et la décolonisation aussi. Et donc, alors les deux guerres, j'entends, parce que ce sont c'est les mêmes peuples qui se sont entretués, on est d'accord, mais sur le plan de la décolonisation, alors commençons par le commencement. Vous partez de la Renaissance, le protestantisme, c'est un
ça
peu...
Ça n'a rien d'original, hein. Je reprends les arguments faisant partie de ce qu'on va appeler la droite conservatrice. Je reprends la thèse de beaucoup d'historiens, de beaucoup de philosophes qui expliquent que l'humanisme est en quelque sorte un rejet du christianisme qui ne dit pas son nom. Et donc, à partir de là, bien sûr, donc en reprenant Alain Pascal, tout est le grand penseur catholique actuel qui dit que l'humanisme, c'est remettre l'homme au centre. Et donc Dieu n'est plus le centre, et c'est à partir de là que tout va être chamboulé. Ensuite, la réforme est la fille de l'humanisme, de la Renaissance, qu'on ne devrait pas appeler Renaissance, puisqu'elle est mortifère. Et donc à partir de là, j'inclus la civilisation occidentale dans un grand tout, sans parler de chaque pays, parce que la crise est plutôt morale que...
Oui, absolument. Voilà. Oui, on ne peut pas rentrer dans
Après,
tous les détails. Il faut
c'est aussi
la
décadence.
Mais alors, vous dites à un moment donné que bon, la Grande Guerre, on passe, parce qu'on est tous d'accord qu'effectivement, ils se sont entretués. C'est un affaiblissement de l'Europe. Mais alors, vous dites que entre les deux guerres, il y a une sorte de résurgence.
Au moins de l'idée lotharingienne ou de l'idée de la Grande Bourgogne.
Alors, à un moment donné, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans les très hautes sphères anglo-saxonnes, ça ne s'est pas fait parce que c'était utopiste et que De Gaulle veillait au grain, mais que des plans de grande Lotharingie, incluant notamment la France, la Belgique, bon après, je ne suis pas allé dans les détails, mais étaient vraiment encore dans les esprits des grands dirigeants anglo-saxons. Des très proches conseillers.
Diriez-vous que le...
On va faire une pause pour le Bobino et on reprend juste après.
Pas de soucis.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
On reprend donc cette émission. J'étais en train de vous poser une question avant la pause sur l'Union européenne. Alors pensez-vous que les débuts de l'Union européenne... le traité de Rome, pas tel qu'elle est aujourd'hui, c'était une idée lotharingienne de faire, parce que finalement, les pays fondateurs de l'Union européenne, c'est à peu près la vieille Lotharingie, non ?
Voilà, c'est ça.
Exactement. Alors, c'est vrai que c'était économique au départ.
On pourrait dire l'Europe carolingienne au sens large.
Oui.
Vu qu'il y avait l'Allemagne, l'Italie, etc., le Benelux.
C'était en plus l'Allemagne. C'était la RFA.
Oui, tout à fait. Exactement.
Tout à fait. Ça colle parfaitement.
On enlève la Suisse et on est en tout à fait.
On y est. Hein.
On y est tout à fait.
Il n'y avait pas l'Espagne. Je rappelle juste aux auditeurs qu'il n'y avait ni l'Espagne ni le Portugal. Il n'y avait pas la Prusse orientale, parce que c'était la RDA à l'époque. Et il n'y avait pas l'Angleterre non plus. Donc c'était vraiment l'Italie, la France, le Benelux et l'Allemagne de l'Ouest, hein, si je ne me trompe pas. En dehors de la Suisse, ça correspond...
C'est ça, exactement. Oui. La Suisse qui est... Voilà.
Et pensez-vous que cette Union européenne de l'époque, hein, des années 57, donc, pouvait, si on l'avait politisée, elle pourrait correspondre à une sorte de Lotharingie résurgence de la Lotharingie.
Je pense que le verre était déjà dans le fruit, c'est-à-dire, je m'explique, que l'Union européenne était dès ses origines, et là ça n'a rien d'original, je reprendrai Philippe de Villiers qui explique très clairement que
Donc vous souscrivez à cette thèse, je la devine à l'avance.
Mais... à cette thèse.
Dites ce que c'est, parce que tous les auditeurs ne savent pas forcément ce que...
Mais en précisant donc que c'était une volonté anglo-saxonne, précisément atlantiste, de... Voilà. Mais il ne faut pas oublier la mentalité de l'époque. Tous les gens, toutes les personnes qui étaient de bonne foi, des conservateurs, des catholiques, qui souscrivaient à ce projet européen, étaient de bonne foi. Et donc, ils se sont peut-être fait piéger. Et c'est pour ça que j'explique dans un chapitre que certains vieux conservateurs belges, catholiques, étaient au début très enthousiastes à cette idée d'Europe, d'Europe lotharingienne, d'Europe carolingienne. Mais je pense que le verre était dans le fruit dès le début, moi. Voilà.
Et donc, est-ce que, pour vous, il y aurait encore une idée lotharingienne ou un projet lotharingien à mener contre l'Union européenne telle qu'elle existe? Ou qu'est-ce que ça veut dire au XXIe siècle, en fait, pour vous?
Disons que l'Union européenne, espérons-le, peut-être s'achèvera un jour. Certains disent plus vite, certains disent dans plus longtemps, mais... mais il ne faut pas oublier que, comment dire, l'UE, ne pas confondre avec l'Europe. Et moi, je parle plutôt d'Europe occidentale, parce que l'Europe est partagée. Il ne faut pas confondre Europe et Occident, parce que la Grèce, les pays d'Orient orthodoxes font partie plutôt de la civilisation orientale. Et donc, justement, ça serait beaucoup plus... Je crois que s'il fallait refonder quelque chose après l'Union européenne, parce que... une collaboration saine entre États souverains pourrait tout à fait déboucher sur une... voilà, on ne va pas refermer les douanes concernant, par exemple, moi je viens de la Suisse, donc tous les jours des centaines, des milliers de Français, d'Allemands viennent travailler en Suisse. Et donc ça serait l'idée d'une collaboration intelligente, économique, politique européenne n'est pas à balayer. Et donc là,
c'est telle qu'elle est aujourd'hui.
Voilà, exactement. Ça serait peut-être
mais c'est intéressant ce que vous dites.
Plus humaine qu'une Europe où Paris, Berlin, Berne, Turin seraient.
Mais Berlin pour vous fait partie de l'Orient ou l'Occident?
L'Allemagne est clairement occidentale. Mais,
oui, mais il y a plusieurs Allemagnes.
Mais voilà, on peut pas. Voilà.
Si vous défendez la Lotharingie, vous souscrivez au fait qu'il y a plusieurs Allemagnes.
L'Allemagne est fédérale. Hein.
Oui.
Voilà.
Mais alors, non, mais même culturellement.
Bien sûr, Richard Bavarois n'est pas un Prussien.
N'est pas un Prussien, il est proche de la France.
On est tout à fait d'accord, tout à fait.
Et pensez-vous que, par exemple, c'est très intéressant ce que vous dites, que l'Occident n'est pas l'Orient, je souscris parfaitement, mais pensez-vous, par exemple, que les Anglo-Saxons, les Britanniques ou les Irlandais font partie de cet Occident?
La civilisation, oui. Mais après...
Politiquement, c'est différent.
Disons que les Anglo-Saxons, les Britanniques, comme Churchill l'avait dit à De Gaulle, entre vous et le grand large, on choisira toujours le grand large.
C'est leur colonie, finalement.
Voilà.
C'est ça. Là, je veux dire, je fais allusion aux États-Unis.
Oui, bien sûr.
C'est leur colonie.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui des tenants ou des partisans? Alors, j'allais employer une comparaison que vous allez peut-être trouver critique, mais... Est-ce qu'il y a aujourd'hui des partisans de la Lotharingie, de la résurgence de la Lotharingie, comme il y en a de l'espéranto? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, en fait?
Oui,
un peu utopiste d'une certaine manière. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut être partagé, qu'on peut retrouver, pourquoi pas, dans des partis politiques ou dans des associations? Ou est-ce que c'est quand même encore très marginal?
Je pense que c'est très marginal. Ouais. Et ensuite, donc l'esprit du livre se veut dans les traditions, donc... Justement, la résurgence lotharingienne, s'il y en a une, ça respecterait les coutumes des peuples. Par exemple, comme je l'explique, on ne remettrait pas en cause la démocratie semi-directe suisse ou la royauté belge qui est une institution. Ça devrait être ancré dans une réalité. Déjà, on ne va pas retourner à l'époque de Lothair. Voilà.
Non, mais peut-être à celle de l'Europe des Six, en fait.
C'est ça,
d'une certaine manière.
Et bien orientée.
Oui.
Pas avec les mêmes dogmes politiques. Alors,
on arrive quasi... les références du livre, bien sûr.
La Lotharingie et son enjeu géopolitique pour hier, aujourd'hui et demain, aux éditions Godefroy de Bouillon. C'est un petit livre à 15 euros, si je ne me trompe pas. qui fait une centaine de pages. Et donc, voilà, vous pouvez en le lisant découvrir plein d'autres choses. Là, on a un peu, on s'est attardé sur le Moyen-Âge, on a balayé les grands.
Vous découvrirez plein d'autres choses à l'intérieur. On se retrouve dans une semaine. Bientôt. Merci beaucoup.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Culture et Politique.